Radio Kapi.
La tension a baissé cet après-midi dans la ville de Goma après des manifestations populaires ce matin à la suite du meurtre hier d'un jeune conducteur par un policier. C'était en pleine opération de bouclage forcé des véhicules, opération qui n'a pu avoir lieu ce mercredi comme prévu. Lancement hier à Matadi de l'opération d'identification biométrique des agents et fonctionnaires de l'État en province. Il s'agit d'avoir la pleine maîtrise des effectifs de tous les agents de l'État afin d'améliorer leurs conditions socio-professionnelles, indique le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, qui a procédé au lancement. Et puis, l'invité de ce soir, Lord Tariq Ahmad, ministre d'État aux Affaires étrangères et envoyé spécial du Premier ministre du Royaume-Uni pour la prévention de la violence sexuelle, il vient de boucler une visite en RDC et se félicite de l'appui de son pays à la RDC dans la lutte contre ce fléau. Mais d'abord cette nouvelle, 27 corps repêchés, 32 disparus et une soixantaine de rescapés, c'est le bilan provisoire du naufrage d'une embarcation de l'ICCN, accident survenu la nuit de lundi à mardi à Mbandaka sur le fleuve Congo. Environ 120 passagers étaient à bord au moment de l'accident survenu en aval de Wenji-Sekli, localité située à 20 km au sud-ouest du centre-ville de Mbandaka. Le gouvernement provincial de l'Équateur a dépêché des équipes de recherche au lieu du drame. Des détails avec Paul Richard Malengela.
Le ministre porte-parole intérimaire du gouvernement provincial de l'Équateur indique que jusqu'au mercredi matin, 27 corps ont été repêchés, dont des bébés qui portaient leur mère. Certains ont été ramenés auprès de familles à Wenji-Sekli, d'autres en état de décomposition ont été immédiatement enfouis dans des campements d'alentour par des équipes d'enterrement dignes et sécurisées de la zone de santé de Bolenge. Ce, avec l'appui gouvernemental, a indiqué le ministre Luc Didier Mboula. Les équipes d'action humanitaire de la Croix-Rouge ainsi que de la DGM de la Force et de la Police Navale poursuivent des recherches en vue de retrouver d'éventuels corps ou des disparus. Ces patrouilles ont déjà ramené plus de 60 rescapés à Wenji-Sekli et environ. Il faut rappeler que l'embarcation naufragée était un convoi de deux pirogues motorisées qui sert au mouvement des patrouilles des éco-gardes de l'ICCN affectées à la réserve du triangle de Langiri. Au départ du village Nkoto, elle avait à son bord la dépouille d'un enfant qu'on allait inhumer à Wenji-Sekli. Mais au retour, plusieurs passagers qui revenaient du marché chaque dimanche se sont embarqués massivement. Un vent violent a surpris l'embarcation sur le fleuve, coulant totalement avec passagers et marchandises. Bandaka pour Chamalengue, la radio Okapi.
Madame, Messieurs, bonsoir. À Goma, la tension a baissé cet après-midi à travers la ville. C'est après des manifestations populaires dans la matinée, en réponse à un appel à la journée ville morte lancée par quelques mouvements citoyens. Ces derniers contestaient le meurtre d'un jeune conducteur d'environ 23 ans par un élément de la police en opération de bouclage forcé des véhicules. Le déploiement des éléments de la police reste visible jusque ce soir dans les coins névralgiques de la ville de Goma. Bernardin Nyangi, reportage.
Les dernières barricades placées sur la chaussée, particulièrement sur la nationale numéro 2 entre Katindo et Ndosho, par les manifestants ont été dégagées autour des 11h locales par les éléments de la police. Ces derniers ont recouru aux tirs de sommation pour disperser les jeunes manifestants et rétablir la circulation. Rappelons que ces manifestations, qui ont paralysé les activités socio-économiques dans la ville toute la matinée ce mercredi, sont consécutives aux appels à la journée ville morte lancé par le mouvement citoyen dès mardi soir. C'était peu après le meurtre d'un jeune conducteur par un élément de la police à un point de bouclage et de recouvrement forcé des taxes de circulation routière. Les manifestants exigeaient entre autres la levée de cette mesure. Du coup, ce bouclage n'a pas eu lieu ce mercredi dans la ville malgré l'annonce de son maintien la veille par la Direction Générale de Recettes du Nord Kivu de Jerenka. Quelques écoles n'ont pas aussi fonctionné, mais les activités commerciales ont ouvert surtout au centre-ville. Goma, Bernardin Nyangi, Radio Okapi.
Restons à Goma. Le pasteur Jean-Omar Iramazani de l'Église chrétienne pour toutes les nations, très connu dans la ville, comparaît depuis ce mercredi devant le tribunal militaire de garnison de Goma. Il est poursuivi pour association des malfaiteurs et enlèvement d'enfants dans une procédure normale. Ce procès public suscite des vives réactions dans l'opinion locale. Sifa Maguru nous en parle.
Le procès du pasteur Jean Omari s'est ouvert devant une foule immense composée de ses fidèles, les familles des victimes et plusieurs observateurs. Il est poursuivi par l'auditeur militaire des garnisons dont les dossiers sous RP 03534/022 avec ses co-accusés pour enlèvement des 11 enfants de 3 à 6 ans. Après présentation et identification des faits par le ministère public, l'audience a été suspendue. La défense a introduit une requête pour liberté provisoire en faveur du pasteur. La requête a été rejetée par le ministère public alors que le président du tribunal a promis de se prononcer sur la question le 19 octobre à la prochaine audience. Notez que le commandant de la police urbaine, le colonel Job Alissa, a été invité par le tribunal en qualité d'expert pour éclairer le tribunal sur les faits présentés depuis l'interpellation des accusés qui ont cité les pasteur Jean Omari avant que celui-ci soit déféré devant la justice. Goma Sifamagourou, Radio Okapi.
En plus bref, notez que le général-major Dick Oloum est le nouveau commandant des troupes de l'armée ougandaise déployées en RDC dans le cadre des opérations conjointes avec l'armée congolaise contre les EDF, opération dénommée Chuja. Il vient d'être désigné à ce poste par le président ougandais Yoweri Museveni en remplacement du lieutenant-général Kayanja Mwanga, nommé il y a quelques jours commandant des forces terrestres de l'UPDF. Le général Dick Oloum se voit également confier le commandement de la division de montage, une force spéciale de l'armée ougandaise, signalant qu'il était le conseiller de l'ambassade de l'Ouganda à Kinshasa. Province du Kwilu, deux nouveaux décès ont été enregistrés lundi et hier mardi parmi les déplacés partis de Kwamout et qui vivent actuellement dans le Kwilu. Selon le directeur de cabinet du commissaire général en charge des actions humanitaires au Kwilu, il s'agit d'un enfant de 8 ans à Bandundu et d'une femme à Fatundu, décédés suite au manque des soins appropriés et aux conditions de vie difficiles. Ceci ramène à 6 le nombre des décès enregistrés depuis que cette province accueille les déplacés, soit depuis août dernier. Jérémy Bikiele explique la situation au micro de Irène Boma.
Nous venons d'enregistrer des nouveaux cas de décès à Bandunduville et dans la cité de Fatundu. Donc c'est suite au manque des soins appropriés et aux conditions de vie qui sont encore précaires auprès de déplacés qui sont victimes des conflits Tekeyaka dans le territoire de Kwamout qui vivent actuellement dans la province du Kwilu. Nous continuons à enregistrer les cas de déplacés qui continuent à venir. Nous sommes à 6 décès aujourd'hui. L'appui de Médecins Sans Frontières est très important aujourd'hui parce que le nombre de personnes qui sont malades continue à augmenter. Il y a d'abord les mauvaises conditions d'alimentation pour le cas de la femme à Fatundu, parce qu'elle était déshydratée, il n'y avait pas les soins appropriés. Et pour l'enfant, la fille de 8 ans, c'est suite au manque de soins appropriés. Donc les parents ne l'ont pas amenée à l'hôpital au temps opportun. Donc, il y a eu plusieurs missions d'évaluation des besoins, de bénéfices, des déplacés, mais jusque-là, il n'y a pas encore une réponse immédiate, urgente, qui est apporté en faveur des déplacés.
Je vous l'ai dit dans les titres, le Congo central est la province pilote de l'opération d'identification biométrique des agents et fonctionnaires de l'État en province, opération lancée hier à Matadi par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, en présence du vice-gouverneur du Congo central. Dans son adresse à cette occasion, Jean-Pierre Liaou a indiqué que ce processus est d'importance capitale. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, explique dans ses propos recueillis par Nana Plurich Mambou.
Il s'agit d'un processus important qui va permettre au gouvernement d'avoir la pleine maîtrise des effectifs de tous les agents et fonctionnaires de l'État. Avant de matérialiser la vision du président de la République qui voudrait doter notre pays d'une administration publique efficace, efficiente, une administration publique avec des fonctionnaires qui ne soient plus regardés comme une charge pour l'État, mais plutôt comme des valeurs ajoutées, comme de vrais acteurs du développement. Après ces processus, qui va donc commencer au niveau de 5 autres provinces, parce que nous lançons à Matadi, mais ça concerne 5 provinces pour la première vague, le Congo central, Kwango, Kwilu, Kasai et Kasai oriental, avant la seconde vague qui concernera aussi 5 autres provinces, avant qu'on aille vers les présentations diplomatiques et avoir donc un fichier unique des agents et fonctionnaires de l'État. Je veux en profiter pour compléter l'immatriculation des agents et fonctionnaires à la CNSAP, la Caisse nationale de sécurité sociale, des agents publics que nous voulons redynamiser pour que la retraite puisse être débloquée. Elle qui bloque pratiquement une gestion rationnelle des carrières et le rajeunissement de notre administration publique de l'État.
À Mbujimayi, signalons la découverte d'un lot important d'intrants de lutte contre la malnutrition. C'était dans la nuit de lundi à hier mardi, dans une maison résidentielle située au quartier Masanka, commune de Djoulou. D'après le médecin chef de division provinciale de la santé, ces intrants sont ceux remis régulièrement à l'ONG Congo Nouveau Prospère par le programme alimentaire mondial PAM pour distribuer dans les zones de santé où les cas de malnutrition ont été notifiés. Écoutez à ce sujet le docteur Bonheur Tshitekou, chef de division provinciale de la santé au Kasaï Oriental. Il est au micro de nos confrères de la radio-télévision Debou Kasaï.
C'est autour de 20h que nous avions eu l'information par le service territorial qu'il y a des intrants de lutte contre la malnutrition qui sont entreposés dans une des maisons dans les quartiers en face de la BCC. J'ai été aussi appelé par le ministre de l'Intérieur, nous sommes venus, on a trouvé une dame. Nous avions demandé si réellement elle avait des choses dans sa maison, elle a tout nié. On a fait recours au service de sécurité, on nous a envoyé quelques policiers qui sont arrivés. Nous avons essayé de fouiller dans la maison. C'est là qu'on a trouvé beaucoup de intrants de lutte contre la malnutrition. On a trouvé dedans des boîtes d'huile végétale, de la farine, des platidoses. Nous avons trouvé des bidons qui sont des intrants donnés par PAM à travers Bonopro. Nous avons trouvé une moto portant la mention Bonopro. Tout ce que nous connaissons, ce sont les intrants qui sont donnés par Bonopro, qui reçoit aussi l'appui des PAM. Et ces intrants doivent aller dans les zones de santé pour la distribution à la population, beaucoup plus les enfants de 6 à 5 à 9 mois, les femmes enceintes et les femmes allaitantes.
Province du Nord Oubangui, environ 10 000 personnes dans l'aire de santé de Gumbalego, à 45 km de Yakoma Centre, ne savent plus où aller se faire soigner. En cause, l'écroulement de leur centre de santé depuis 5 jours, le bâtiment a été construit en daube. Il s'est effondré dans l'eau, immergeant tous les matériels, surtout les quelques médicaments qui étaient disponibles, indiquent des témoins. À ce jour, la population composée également d'un nombre considérable de réfugiés centrafricains doit transporter les malades grave à moto ou à vélo jusqu'à Yakoma ou encore à Dondou, Bossa, Limassa et d'autres centres à des dizaines de kilomètres de là, d'où ce SOS du président du cadre de concertation provinciale de la société civile du Nord Oubangui, Taylor Taïma, joint par Paul Richard Malengela.
Avec cette inondation, les centres de santé de Gumba se trouvent sous l'eau. C'est-à-dire qu'il y a une destruction totale. Il n'y a même pas moyen qu'on puisse soigner les gens là-bas. Tout se trouve dans l'eau et surtout que c'était construit avec le brigadon, il n'y a plus rien là-bas. C'est une situation grave parce qu'un grand groupement qui regorge une population très dense avec les réfugiés également, comment ils vont vivre sans centre de santé? C'est pourquoi nous demandons aux amis de bonne volonté et surtout au gouvernement central, au gouvernement provincial, d'agir dans l'urgence, sans oublier aussi les partenaires tels que l'UNICEF, l'OMS et les autres, pour qu'ils puissent venir en aide pour cette population-là qui se trouve dans un état de détresse le plus avancé. Parce qu'aujourd'hui, sans centre de santé, il n'y a même pas de produits, comment on peut vivre? Et nous demandons à ce qu'on puisse assister même avec les bâches de vivre et les non-vivre qui puissent aider tant soit peu cette population-là. Sans oublier tout ce qui se trouve tout au long de la rivière Ouélé, la rivière Oubangui.
Dans l'actualité aussi, l'Observatoire volcanologique de Goma, OVG, annonce avoir constaté une activité inhabituelle enregistrée mardi aux environs de 18h30 dans ses sites d'observation de Munigi et Kibati, en territoire de Nyiragongo. Ce centre de recherche volcanologique affirme que les habitants de Munigi, au nord de Goma, ont ressenti des grondements dans le cratère du Nyiragongo, suivi de l'apparition d'une lueur rouge au sommet de ce volcan. Le directeur scientifique de l'OVG, contacté ce mercredi par Radio Kapi, affirme que c'est un fait normal puisque le Nyiragongo reprend son activité dans son cratère. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter, précise Célestin Kasereka Mainda, joint par Rachel Kiesembangu.
À partir partir d'hier soir vers 18h30, la population observe une grande lueur au sommet du volcan, ce qui est normal pour les Niragongo, donc il y a une activité qui vient de reprendre à l'intérieur de son cratère. Donc la population n'a pas s'inquiété. Ce qui en a une aujourd'hui, c'est le volcan. Les Niragongo restent en activité dans le cratère. Dans le cratère, mais ça n'a pas d'impact sur la ville. Demain, nous avons une équipe là-bas pour évaluer avec détail. Première impression, il n'y a pas de problème, c'est la situation normale des Niragongo. Il reprend son seul activité.
Actualité Afrique Monde.
La police de la capitale kényane affirme être à la recherche d'un gardien d'église soupçonné d'avoir dérobé 1,5 million de shillings, soit 12 400 $, que les membres avaient collectés pour développer leur église. La police soupçonne le voleur d'avoir pénétré par effraction au sein de l'édifice sacré à Kangemi, à la périphérie de Nairobi. Il s'est ensuite emparé de l'argent qui se trouvait à l'intérieur d'un tiroir au sein de l'hôtel.
L'invité.
Nous recevons Lord Tariq Ahmad, ministre d'État aux Affaires étrangères, Commonwealth et Développement, et envoyé spécial du Premier ministre du Royaume-Uni pour la prévention de la violence sexuelle. Il vient de boucler une visite en RDC, visite qu'il a conduite à Bukavu et à Kinshasa avec la comtesse royale de Wessex. Pour cet homme d'État britannique, la lutte contre les violences sexuelles ne peut donner des résultats sans l'implication des survivantes et des communautés, non seulement en RDC, mais aussi dans le monde. Lord Tariq Ahmad se félicite de l'appui de son pays à la RDC dans la lutte contre ce fléau. Il répond aux questions de Jean-Pierre Ilali Koko.
Monsieur Lord Tariq Ahmad de Wimbledon, bonjour.
Bonjour.
À Bukavu, vous avez visité l'hôpital de Panzi du docteur Denis Mukwege. Vous avez rencontré les officiels congolais ici, même à Kinshasa, à commencer par le président Félix Tshisekedi. Que peut-on retenir de vos entretiens et de l'objet même de votre visite?
Well, first of all, I was delighted to be visiting.
Tout d'abord, ce fut un plaisir de visiter la RDC pour la première fois avec Sa Majesté la Comtesse. Puis c'était essentiellement pour aborder les questions liées au conflit et aux violences basées sur le genre et consorts. Comme vous le savez, le Royaume-Uni est à l'avant-garde, chef de file, au fait, de toutes ces initiatives au niveau mondial. Il doit tourner autour de ça essentiellement. Nous avons eu l'opportunité de visiter l'hôpital de Panzi avec le docteur Mukwege et également visiter les autres survivants. C'est vrai que le défi demeure ici en RDC par rapport aux différentes formes de violence, mais nous avons de l'espoir et cet espoir nous vient essentiellement des survivants. Nous avons également eu l'opportunité de rencontrer Son Excellence Monsieur Félix Tshisekedi, président de la RDC. Nous avons aussi rencontré le ministre du Genre, Famille et Enfants, ministre de la Justice. C'était des discussions bilatérales très fructueuses. Nous avons aussi discuté du renforcement du rôle même que le Royaume-Uni joue dans toutes ces initiatives.
Votre pays a accordé en 2019 2,7 millions de livres sterling au Global Survivor Fund du docteur Mukwege. 3 ans après, les besoins se sont accrus, certes. Votre pays, vous l'avez dit, apporte son soutien à la lutte contre les violences sexuelles. Quelle a été votre contribution lors de cette visite en termes, bien sûr, d'appui de la lutte contre ce fléau dans l'est de la RDC?
The Panzi Hospital, indeed.
Pour ce qui est de l'appui que le Royaume-Uni apporte à Panzi, c'est vrai que même les premiers bâtiments de Panzi a été construit sur fonds du Royaume-Uni. Nous avons apporté financement initial de 1 million, mais comme vous l'avez dit, c'est allé jusqu'à 2,7 millions de livres. Nous apportons non seulement un appui technique sur une variété de sujets, mais également pour tout ce qui concerne la justice, la redevabilité. Il y a plusieurs initiatives que le docteur Mukwege est en train de chapeauter. Notre appui se résume en appui technique.
Et l'ancien président français François Hollande, en visite à Bukavu dernièrement, a déclaré, je cite, « On parle moins des violences sexuelles commises en RDC. La Grande-Bretagne organise, comme vous le savez, en novembre prochain, une conférence sur les violences sexuelles dans les zones à conflit. Que peuvent alors espérer les victimes de ces violences en RDC à cette rencontre, monsieur le ministre?
Ce qu'il faut savoir, c'est que le Royaume-Uni est en tête de cette initiative, de cet agenda depuis plus de 10 ans. Ce sur quoi je travaille personnellement, c'est les aspects préventifs. Nous savons que la violence sexuelle est très tragique et c'est utilisé comme une arme de guerre, non seulement en RDC, mais également dans les régions du Sahel,
en Ukraine
également. Le Royaume-Uni est le seul pays à avoir un envoyé spécial qui s'occupe de violences sexuelles et violences basées sur le genre. Je suis moi-même ministre des Affaires étrangères et du Développement, mais en plus de cela, j'ai aussi cette responsabilité-là de pouvoir porter haut ce message. Travaillons avec les Nations Unies, mais nous travaillons également avec la RDC, avec un focus particulier sur les survivants. Les solutions ne viendront qu'avec la participation et l'implication des survivants, mais il faut également une volonté de la part de la communauté.
Pour terminer, la RDC accuse le Rwanda, aux pays membres du Commonwealth, de l'agresser à travers les M23. Quelle pourrait être la contribution de la Grande-Bretagne, votre pays, pour pacifier les relations entre les deux pays?
We have very strong relations with near neighboring countries.
Nous avons de très fortes relations avec les pays frontaliers à la RDC. Ces questions discutées de manière très claire. Le Rwanda le reconnaît que la sécurité, la stabilité est ce qu'il faut pour la région, non seulement pour les pays environnants.
Monsieur Laure Tariq Hamad, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Ainsi s'achève ce journal coordonné par Richard Junior Kamunga. Merci de l'avoir suivi.